Bonjour à tous. Le texte qui est devant nous aujourd'hui prend la suite de ce que Jean-Noël nous a exposé il y a maintenant 2 semaines. Un texte qui parlait de la patience. Un texte qui nous disait, mais vous devez être patient parce que Dieu agit et il revient bientôt. Un texte qui nous disait que nous devons être patients parce que c'est Dieu qui juge et qu'il revient bientôt. Un texte qui nous disait que nous devons être patients parce que Dieu est amour. Et qu'il revient bientôt. Et après nous avoir appelé à la patience en disant « Mais Dieu revient, soyez patients !» Ce texte aujourd'hui nous appelle à être actifs et à prier. Et je voudrais qu'on lise ensemble dans la lettre de Jacques, au chapitre 5, à partir du verset 13. Pour les Bibles blanches, c'est à la page 597. De 799, pardon. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans. Et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit de son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Matthieu l'a dit, hein. Ça parle de la prière, d'accord? Regardez, versets 13, 14, 15, 16, deux fois dans le verset 16, 17, 18. Le thème de la prière traverse notre texte. Pourquoi finir finalement cette lettre avec ce thème de la prière? Parce que, comme le disait finalement Calvin, la prière est le principal exercice de la foi. Dans la Bible, la foi et la prière sont intimement liées. Parce que si nous croyons, nous prions. Si nous croyons, nous prions. Je voudrais voir quelques points au travers de ce texte. Le premier, c'est prier tout le temps. Charles annonce qu'il va prier avant le repas. Sa femme le regarde et lui dit, « Il y a un problème avec le repas ?» Ici, la première chose que nous voyons, c'est que le chrétien prie tout le temps, les bons et les mauvais jours. Sont vécus de la même façon dans la communion avec Dieu. Et c'est avec ces deux questions-réponses que Jacques introduit cette nouvelle thématique. Est-ce que quelqu'un ici souffre ? Qu'il prie. Est-ce que quelqu'un ici est dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. Mais l'idée de prière est sous-entendue par le verbe qu'il utilise. Il utilise le verbe qui vient du mot psaume, qu'il chante sa joie à Dieu, qu'il psalmodie. Quoi que vous viviez, aujourd'hui ou demain, la prière est au cœur de la vie du chrétien. Dans les périodes de troubles, dans les périodes de réjouissance, la prière et la louange reconnaissent que Dieu est suffisant pour nous aider, que nous lui faisons confiance, que nous le reconnaissons comme l'auteur de tout ce qui est bon dans nos vies, que nous lui faisons confiance même quand la vie est dure. Seigneur, je ne mérite pas ces enfants que tu m'as donnés, et je te loue pour cela. Je ne mérite pas cette femme ou ce mari que tu m'as donné, et encore une fois, je te loue. Je ne mérite pas ces frères et sœurs qui m'entourent, mais je te remercie pour eux. Je ne mérite pas ce travail, mais tu me bénis au travers de celui-ci, et je te loue. Est-ce que je me suis approprié tout ce qui m'arrive de bon dans ma vie? Est-ce que je considère ça normal? Est-ce que je considère que c'est un dû? Ou est-ce que je considère que c'est une grâce de Dieu et je le loue pour cela? J'ai mon petit là qui a 5 ans et quand il y a un truc que je fais un peu particulier, il me regarde avec des yeux mais émerveillés. Et des fois je me dis, mais est-ce que j'ai gardé ce regard vis-à-vis de Dieu? Ou je suis émerveillé par ce qu'il fait dans ma vie? Ou est-ce que c'est normal finalement? Mais Jacques nous dit que la prière continue quand la souffrance est là. Très récemment, quelqu'un m'a dit, mais j'arrive au bout de mes droits du chômage et je vois rien, du tout, aucune piste, aucune opportunité, mais j'ai confiance en Dieu. Est-ce que je continue à prier quand mon mariage est à bout de souffle, quand mes enfants s'éloignent du Seigneur? Seigneur, je suis là devant toi. Je n'avais pas anticipé tout cela. Je suis dépassé par les événements. Mais je suis là, devant toi. J'ai confiance en toi. C'est un peu le reflet de ce psaume 23 qui nous dit que je te loue de ce que tu me conduis dans des verts pâturages. Et je sais que tu es là quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Priez tout le temps. La vie du chrétien, c'est une vie de communion, de prière avec Dieu. Deuxième point, prier avec les anciens. Lorsqu'on continue de lire le texte dans les versets 14 et 15, ce sont les anciens qui prient. Nous sommes passés de la situation où je prie à une nouvelle situation. Il faut que vous appeliez les anciens et que les anciens prient. Et la première chose que nous rappelle finalement Jacques, c'est que la vie chrétienne n'est pas une vie que je mène seul avec Dieu, mais une vie communautaire. L'Église n'est pas le rassemblement d'individus, mais elle est un corps dont Christ est à la tête. Un corps où nous sommes interdépendants les uns des autres. Et ce corps n'existe réellement que lorsque nous nous encourageons les uns les autres. Nous nous aidons les uns les autres, nous prions les uns pour les autres. C'est là qu'il prend une vraie réalité, qu'il se voit, qu'il devient visible. Au verset 14, Jacques nous dit que si vous êtes gravement malade, vous devriez appeler les anciens et qu'ils prient pour vous. Alors ce passage a des fois été utilisé pour justifier le rite de l'extrême onction. C'est assez facile de voir que ce passage ne parle pas de ça. Quand est-ce qu'on pratique l'extrême onction? Quand on pense que les gens vont mourir. Quand est-ce que les anciens prient? Quand on pense que les gens vont guérir. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Les anciens prient et la prière sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Je suis sûr que vous avez plein de questions à propos de ce texte. Je vous en donner quelques-unes. Première question. À quel point est-ce que je dois être malade avant de prendre mon téléphone et d'appeler les anciens? C'est concret. C'est quoi la prière de la foi? Est-ce que les prières des anciens sont plus exaucées que celles des autres? Et puis c'est quoi cette histoire du pardon des péchés qui vient au milieu de la maladie? Alors je vous propose qu'on regarde deux, trois choses à propos de cela. Première question. Je viens d'attraper un rhume. Vaut-il mieux que j'appelle mon médecin ou mon pasteur? Ou mon ancien, ou les deux peut-être. Alors il semble que ce passage suggère que la maladie est suffisamment grave. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que le terme qui est utilisé pour maladie, ici indique une maladie qui est plutôt une maladie prolongée, chronique ou grave. Mais aussi parce que la personne appelle les anciens pour qu'ils viennent prier. C'est eux qui se déplacent et qui viennent visiter finalement le malade. Et la dernière chose, c'est que le texte ne dit pas que les anciens prient pour le malade, il dit qu'ils prient sur le malade. Et l'ensemble de ces nuances nous montre quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui n'est pas bien, et les anciens viennent et entourent le malade. Alors il n'y a pas de règle précise, il n'y a pas de cas. Si vous avez un cancer et que vous êtes en phase 3, appelez un pasteur. Si vous avez un rhume, appelez etc. Mais le texte nous souligne que nous sommes devant une certaine gravité ou à une certaine une maladie chronique. L'appel aux anciens ne se substitue pas aux moyens que Dieu a mis à notre disposition pour lutter contre la maladie. Et en disant ça, je pense bien sûr à toute la médecine, et nous sommes reconnaissants des progrès de la médecine moderne. Il ne s'agit pas non plus de dire que quand la médecine n'a plus aucune solution, bah, tu peux toujours appeler les anciens, ça ne mange pas de pain. Ici, l'idée est plutôt de dire, nous sommes devant quelqu'un qui est malade et qui souffre, et qui a besoin d'être accompagné dans cette épreuve. Deuxième question, pourquoi de l'huile ? Alors, c'est vrai qu'on trouve plusieurs fois l'usage de l'huile lors de guérisons dans le Nouveau Testament, mais ce n'est pas systématique. Il semble que nous ayons quelque chose qui est un peu du même ordre, finalement, que la scène ou le baptême. Vous avez un acte physique que l'on voit, que l'on éprouve, que l'on ressent, qui a une portée symbolique. Dans le même temps, finalement, que les anciens prient, ils soignent la personne comme si la personne était particulièrement mise à part devant Dieu. L'huile étant là le symbole de la présence de Dieu. Je reçois régulièrement des SMS ou des messages, des coups de téléphone de gens qui me disent de prier pour elle. Et c'est quelque chose que je fais volontiers. Il me dit, mais tu vois, cette semaine, c'est vraiment compliqué. J'ai vraiment besoin que tu pries pour moi. Et c'est super. Mais il y a quelques fois, à Villefranche, où j'ai eu l'occasion de pratiquer l'onction d'huile. Et c'est vraiment un temps à part. Nous entourons le malade, nous l'écoutons, nous essayons de le comprendre ce qu'il vit, ce qu'il traverse. S'il y a effectivement, comme le suggère ce texte, un péché, c'est l'occasion pour cette personne de régler cela, pas avec nous, mais avec Dieu. Et nous prions ensemble pour le malade. Une des personnes que nous avons accompagnées est revenue me voir quelques mois plus tard. Et elle m'a dit que ça avait été finalement un des temps les plus bénis de sa vie. Un temps qui l'a marqué. Elle était en train de... Elle avait un cancer. Ce cancer progressait très rapidement. Et elle avait plein de questions. Elle ne comprenait pas. Est-ce que ma maladie est liée à un péché, à quelque chose que je fais mal ou pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et en fait, on a pu discuter, parler, prier ensemble. Et la paix est revenue. Et je voudrais juste profiter de ce temps pour préciser une chose. Les entretiens que nous pouvons avoir sont strictement confidentiels. C'est entre les malades et les anciens que cela se passe. Rien ne sort. Et c'est aussi le cas lorsque vous venez nous voir le mercredi après-midi ou lorsque nous faisons des visites, notre engagement est formel. Rien de ce que vous pouvez nous dire ne sort. C'est strictement confidentiel. Troisième question. Qu'est-ce que c'est que finalement cette prière qui restaure? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que les anciens prient, la personne est guérie? Alors si on remonte juste de quelques versets, nous voyons Jacques qui s'en prend à l'arrogance de ceux qui, faisant des projets sans tenir compte de la souveraineté de Dieu, sont arrogants, sont irrespectueux. Et Jacques leur dit, mais vous devriez dire si Dieu le veut. Et Jésus lui-même, lorsqu'il l'enseigne sur la prière, nous exhorte à nous soumettre à la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite. Et puis, il n'y a pas un niveau de foi, à partir duquel, vous savez, Dieu se doit d'être à votre service. Dieu est au service des gens qui croient beaucoup. Mais ce n'est pas juste. Dieu fait ce qu'il veut. Il n'est pas plus au service des anciens qu'il ne l'est de qui que ce soit d'autre. Il n'est pas au service de l'intensité de notre foi. Alors, qu'est-ce qui change? Je crois comprendre que ce qui change, c'est que, au fur et à mesure que nous apprenons à connaître Dieu, Au fur et à mesure que notre intimité avec Dieu grandit, nous sommes de plus en plus aptes à comprendre sa volonté. Nous prions de plus en plus des choses que Dieu agrée et qu'il est heureux de donner. J'ai raconté déjà ça, en tout cas dans les groupes de maison, mais il me semble que c'est important de comprendre cela. Mon fils me demande s'il peut jouer à des jeux vidéo. Et je lui dis oui. Puis il me le redemande la même chose le lendemain et je lui dis non. Il revient à la charge 10 minutes plus tard et je lui dis plus tard. Et ainsi de suite, les jours passent, toujours la même question et de plus en plus souvent à cette même question, est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo ? De plus en plus souvent, je réponds oui. Deux solutions. La première solution, c'est que j'en ai marre de dire non. Mais ce n'est pas ça. La solution, c'est qu'il a compris quand est-ce que je disais oui. Il sait que s'il a déjà fait une demi-heure d'écran par jour, ce n'est pas la peine qu'il vienne me le demander. La réponse va être non. Il sait que s'il n'a pas fait ses devoirs, ce n'est pas la peine qu'il vienne m'en parler. La réponse va être non. Il sait que si les conditions ne sont pas remplies, ce n'est pas la peine qu'il vienne me voir. Et au fur et à mesure, il finit par me demander quand il sait que je vais dire oui. Il en est de la même chose avec Dieu. La vie de prière nous fait gagner en intimité avec Dieu. Quand nous prions, Dieu s'intéresse à notre vie concrète, à ce que nous vivons maintenant. Quand nous prions, nous découvrons qui est Dieu et nous apprenons à le connaître. Quand il dit oui, quand il dit non, quand il dit plus tard. La vie chrétienne, c'est prier. Et prier, c'est apprendre à connaître Dieu dans la vie de tous les jours. Et si je reviens à mes anciens, un des critères pour le choix des anciens, finalement, c'est sa maturité spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'on attend qu'un ancien sache plein de choses sur la Bible. Alors, c'est bien de connaître plein de choses sur la Bible. C'est que nous reconnaissons chez lui une sagesse qui vient d'en haut, comme le dit Jacques quelques chapitres plus haut. Une intimité avec Dieu. Si leurs réponses sont exaucées, ce n'est pas tant que leur foi est immense, mais parce qu'ils ont compris ce que Dieu est en train de faire. D'ailleurs, si vous regardez l'exemple d'Élie qu'il vient de donner juste là après, et que vous regardez un petit peu ce qui se passe dans 1 Roi 17. Pour la première prière d'Élie, pour le fait qu'il ne pleuve pas, 1 Roi 17 ne nous dit rien de la part de ce que fait Dieu. On ne voit pas d'intention particulière de la part de Dieu. Et nous voyons que Élie, le Tzibite, un des habitants de Galaad, dit à Akab, « Par la vie du Seigneur, le Seigneur d'Israël, au service duquel je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et il ne pleut plus. Mais pour la deuxième prière, ce n'est pas le cas. Nous lisons à 1 Roi 18, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole du Seigneur parvient à Élie la troisième année. Va, parez devant Akab, et j'enverrai de la pluie sur la terre. » Élie s'en va, il va devant Akab, et effectivement, il va lui annoncer, après l'épisode des prophètes, etc., que la pluie va retomber sur la terre. La deuxième prière d'Élie n'est finalement que l'exécution de la parole de Dieu. Élie connaissait la volonté de Dieu et il a prié en conséquence. Quatrième question. Quel est le lien qui est fait ici entre le péché et la maladie, le pardon et la guérison ? La maladie est une conséquence du péché. Et dans Romains 8, nous voyons que toute la création souffre du péché. Mais notez bien, j'ai dit la maladie est la conséquence directe du péché, mais pas forcément de mon péché. Vous sentez la nuance ? La maladie est la conséquence du péché, mais pas forcément de mon péché. Alors que Jésus est sur le point de guérir un homme qui est aveugle de naissance, ses disciples viennent le voir, ils lui disent « Mais qui a péché ? Lui ou ses parents ?» Et Jésus l'exclut. Il dit « Ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. » Il dit « Mais il n'y a aucun rapport avec ses péchés ou ceux de ses parents et ce qui est en train de se passer ici. » Mais nous trouvons des exemples où la maladie est la conséquence directe du péché. Nombre 12. Myriam critique Moïse et Dieu lui envoie la lèpre. Directement. La maladie, dans ce cas-là, est bien la conséquence directe du péché. Nous ne pouvons pas dire que de manière générale, la maladie soit la conséquence du péché. Et bien des textes nous interdisent de le faire. Et je vous encourage à lire le livre de Job, qui est un exemple parlant où la maladie n'est pas la conséquence du péché. Dieu va même dire que Job est juste. Vous pouvez voir aussi ça dans Galates 4, verset 13, notamment 2 Corinthiens 12, 17. Ils nous interdisent de faire le lien direct entre la maladie de quelqu'un et son péché. Maintenant, regardons le lien entre le pardon et la guérison. Et ce que nous pouvons comprendre, c'est que finalement, dans la souffrance, dans la maladie, il y a une occasion pour rechercher et réaliser le péché dans nos vies. Est-ce que la vie file ? On est déjà en mars, hein ? On a fêté Noël il n'y a pas si longtemps que ça. Et je sais bien qu'à la fin de, quand on va arriver en décembre 2018, le truc, ça va être, mais pff, et cette année encore ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mais lorsque la maladie est là, le temps s'arrête. Et le temps prend une couleur particulière. La maladie physique nous rappelle notre fragilité. Elle nous rappelle que nous avons besoin d'être restaurés. Elle nous rappelle notre fragilité qui est également spirituelle, notre besoin d'être restauré, de pardonner et d'être pardonné. Et c'est ce qui fait le lien finalement avec le verset suivant. Mais avant d'avancer vers le point suivant, je voudrais être sûr d'être clair. Lorsque vous faites face à une grave maladie, vous appelez les anciens de l'Église. En faisant cela, vous exprimez votre confiance dans le fait que Dieu bénit au travers de la charge qu'il a donnée aux anciens, qu'il entend les prières et qu'il est celui dont vous avez besoin quand les temps sont durs. Alors je sais, et on me l'a souvent dit, mais on a peur de déranger. Les anciens ont plein de choses à faire, je ne veux pas les déranger. Ce n'est pas juste, pour trois raisons au moins. La première, c'est qu'en acceptant d'être nommé ancien, on accepte la charge qui va avec. On ne force personne. Personne n'est forcé d'être ancien. On propose à quelqu'un d'être ancien. Et ensuite, il accepte la charge qui va avec. La deuxième, c'est que c'est notre priorité. Tant pis si l'étude biblique saute. Tant pis si la prédication du dimanche n'est pas aussi bien ficelée qu'elle aurait pu l'être. Notre priorité, c'est de prendre soin de ceux qui souffrent. La troisième, c'est que nous sommes sept. C'est une véritable richesse. Et nous pouvons être reconnaissants. Et il n'y a pas de différence entre nous. Appelez juste celui qui est le plus proche de vous. Priez pour conserver l'unité. Si vous regardez maintenant le verset 16, nous voyons deux chrétiens qui prient. Et je ne sais pas quel est le problème qu'il y a pu y avoir entre eux, mais ça va vite, vous savez, une plaisanterie mal comprise, une médisance rapportée. Oui, méfiez-vous, les médisances sont souvent rapportées. Un désaccord, ou je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe entre eux. Mais Jacques leur dit, confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors attention, Jacques n'est pas en train de dire, va confesser tes péchés à quelqu'un d'autre, à un ancien, un pasteur ou à une personne de ton groupe de maison. Il semble ici que c'est bien l'offenseur et l'offensé qui se rencontrent, que celui qui a blessé l'autre demande pardon pour ses fautes afin que la relation puisse être restaurée. Remarquez encore que Jacques ne donne pas une procédure. Il ne dit pas « c'est celui qui a blessé l'autre qui doit faire le premier pas et l'autre doit accepter ». Il dit « quand il y a un problème entre deux personnes, débrouillez-vous, mais le premier qui y va, il a raison ». Si vous avez un conflit avec quelqu'un, si vous avez été blessé par quelqu'un, n'attendez pas. Nous avons dans les églises, nous avons ici même, dans l'église, des personnes qui refusent de se parler, si ce n'est un bonjour, un au revoir un peu froid. Il y a un problème avec ça. C'est qu'il n'y a rien de plus opposé à l'œuvre de Dieu dans l'église que la division entre des frères et des sœurs. Hier, j'ai discuté à un moment avec quelqu'un. Il m'a dit qu'il ne croyait pas en Dieu, mais qu'il était touché, bouleversé, m'a-t-il dit, par la chaleur, l'accueil, l'amour que les gens avaient pour Olcion et Valérie. Et il m'a dit quelque chose qui était un peu bizarre, et il reconnaissait que c'était bizarre. Il m'a dit, je n'arrive pas à croire en Dieu, mais je vois l'œuvre de Dieu chez vous. C'est vous ça? Fais encore un effort. Si vous avez des problèmes avec quelqu'un dans cette assemblée, n'attendez plus. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le régler. Et si vous n'y arrivez pas, venez voir un ancien. Relisez Matthieu 18. Exprimez votre blessure. Confessez votre faute. Priez l'un pour l'autre. Non seulement les relations peuvent guérir, mais elles sont encore plus fortes quand elles sont le fruit du pardon. Priez. Priez parce que la prière est efficace. Jacques nous rappelle que si nous prions, c'est parce que nous croyons que la prière est efficace. Nous pourrions être finalement tentés de renoncer à prier quand la maladie est trop avancée, quand les relations sont devenues inextricables et qu'on a laissé traîner les choses pendant 5, 10 ans, 30 ans. Tu sais, la personne ne veut même plus entendre parler de moi, alors pourquoi est-ce que je prierai finalement? Ou nous ne prions plus parce que nous sommes découragés? Ou nous ne prions plus parce que nous croyons que notre foi n'est pas assez grande ou assez forte? Mais Élie était un homme semblable à nous, dit Jacques. Et il a prié. Et il n'est pas tombé d'eau pendant 3 jours. Non, 3 semaines. Non, ça c'est pour les camps. On prie pour les camps. On dit, est-ce qu'ils pourraient ne pas tomber d'eau pendant 1 semaine? 3 ans et demi. Il a prié. Il n'est pas tombé d'eau pendant 3 ans et demi. Vous avez un gars qui est dans un coin. Il prie et tout le pays ne voit plus d'eau. Et imaginez ce que ça représente si on avait un gars qui faisait cette prière-là et que ce soit la volonté de Dieu. Et que pendant 3 ans et demi, on sache qu'il ne tombe pas d'eau parce qu'il a prié. Est-ce que nous croyons que Dieu est celui qui agit quand nous prions? Est-ce que nos vies de prière reflètent le fait que nous croyons que Dieu agit par la prière? Nous l'avons évoqué en introduction, si nous croyons, nous prions. Et Jacques, par cet exemple d'Élie, veut fortifier notre foi. Il veut nous dire, mais regardez ce que Dieu peut faire quand un homme prie selon sa volonté. Quelques mots pour conclure. Lorsqu'un Matthieu a travaillé sur le découpage de la lettre de Jacques, il a sous-titré cette lettre. Il a appelé Jacques la foi en action. Et dans toute cette lettre, finalement, ce que nous avons vu, c'est que la foi, c'est plus que croire. Nous avons vu que la foi ne se réjouit pas dans les épreuves, que la foi n'écoute pas seulement, mais elle met en action ce que Dieu dit, que la foi ne juge pas, mais qu'elle fait miséricorde, que la foi vit ce qu'elle dit, que la foi ne maudit pas, mais qu'elle bénit, que la foi recherche la sagesse qui vient d'en haut, parce que c'est quand nous sommes sages que nous prions justement, que nous agissons justement, la sagesse selon Dieu. Que la foi ne médit pas, elle ne dit pas du mal des autres, mais elle s'humilie, elle se considère, comme l'a dit Matthieu, comme un indigent devant Dieu. Que la foi ne s'auto-glorifie pas, mais qu'elle reconnaît la souveraineté de Dieu. Que la foi patiente dans la souffrance, qu'elle continue de faire confiance à Dieu, même quand les temps sont durs. Et aujourd'hui, que la foi nous engage à prier avec ferveur. Ah oui, mais il reste deux versets. Et les deux derniers versets de cette lettre de Jacques nous rappellent que finalement tous ne vivent pas d'une manière active cette foi et que des personnes s'éloignent de la vérité. Et après avoir finalement dressé un si beau portrait de la foi, Jacques nous encourage à tout faire pour ramener au bercail ceux qui se sont égarés. Et il y a deux ou trois ans, à Villefranche, quelqu'un nous a interpellés. Il nous a dit, mais vous savez, depuis une dizaine d'années que je suis dans cette église, j'ai quand même vu partir pas mal de gens dont on ne sait pas trop finalement qui ils sont et ce qu'ils sont devenus. Et avec les anciens, on s'est dit, ouais, c'est vrai. Et puis moi, je ne connaissais pas trop l'histoire de l'église. Et on a pris le temps de regarder les registres, etc., de voir les gens qui étaient passés dans l'église, qui avaient cheminé un temps, et puis qui avaient disparu. Et puis pour certains, en discutant, ils sont dans une autre église, ils ont déménagé, etc., où il y a des raisons. Et on est arrivé à trois familles où on s'est dit, bien, on va aller les voir. Et les deux premières ont été vraiment infructueuses. On est arrivé, la porte était fermée, et il n'y avait rien à dire. Quand on ne peut pas parler, on ne peut pas parler. Mais la troisième famille, la discussion a été vraiment longue. Et finalement, ces gens sont partis de l'église sur un conflit avec des personnes. Et après des discussions avec eux, après des échanges, finalement, on a pu régler ce conflit-là. Les gens ont pu se demander pardon, des années après. Et ces gens sont aujourd'hui dans l'église et vraiment se réjouissent de l'œuvre que Dieu a faite dans leur vie. Dans toute cette lettre, Jacques distingue deux types de personnes. Et nous avons un peu de mal avec cela parce que, et ça a été une de mes difficultés en travaillant, c'est que à chaque fois je me dis, mais la personne dont il parle, est-ce que c'est un chrétien ou est-ce que c'est un non-chrétien? Et on hésite un peu, on se dit, mais quand il parle de celui qui écoute la parole mais qui ne la met pas en pratique, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Quand il parle de celui qui tient pas sa langue, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Quand il parle de celui qui fait du favoritisme, de celui qui ne fait pas d'œuvre, de celui qui ne montre pas de sagesse selon Dieu, de celui qui génère des conflits, de celui qui dit du mal des autres, de celui qui est riche au détriment des autres, de celui qui ne persévère pas dans l'épreuve, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Et il me semble que ce n'est pas tout à fait l'angle sous lequel Jacques aborde cela. Son angle est plutôt de dire, mais est-ce que la foi est vivante ou est-ce qu'elle est morte? Son angle n'est pas tant de faire la différence entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas, mais de nous montrer à quoi ressemble la vie de quelqu'un lorsque Christ vit en lui, en contraste à ce qui se passe lorsque notre foi n'est plus alimentée. Lorsque, finalement, peu à peu, nous nous laissons aller à ce que nous étions avant notre salut. L'encouragement final est, me semble-t-il, de voir autour de nous ceux dont la foi a été mise à mal, de nous tourner vers eux, de les encourager pour les ramener à la vérité. Et je voudrais juste conclure, j'ai lu dans un commentaire de Warren Zwierb, je ne sais jamais le prononcer, je ne devrais pas lire son commentaire, je n'arrive pas à prononcer son nom. Mais il propose 12 questions qui nous permettent de regarder où en est notre foi. Est-ce qu'il y a des fois ou des secteurs dans lesquels ma foi à moi, elle est morte en fait? Elle ne produit aucun fruit. Et je vous livre ces 12 questions et puis on les mettra dans l'info hebdo. Vous aurez plus de temps pour y réfléchir. Suis-je de plus en plus patient face aux épreuves de la vie? Est-ce que je joue avec la tentation ou est-ce que je lui résiste dès le départ? Ai-je du plaisir à obéir à la parole de Dieu ou est-ce que je me limite à l'étudier et à la mémoriser? Est-ce que je suis lié par mes préjugés? Est-ce que je suis capable de contrôler ma langue? Est-ce que je suis un artisan de paix ou un fauteur de troubles? Les personnes font-elles appel à ma sagesse spirituelle? Ou est-ce qu'elles m'évitent quand elles ont des vraies questions? Suis-je l'ami de Dieu ou l'ami du monde? Est-ce que j'élabore des plans sans tenir compte de la volonté de Dieu? Est-ce que je suis un égoïste en ce qui concerne l'argent? Est-ce que je suis négligent dans le paiement de mes factures? Ai-je naturellement recours à la prière dans les situations difficiles? Suis-je le genre de personne que les autres recherchent pour obtenir un soutien dans la prière? Quelle est mon attitude face à mes frères qui se sont égarés? Est-ce que je les critique et je m'adonne au commérage? Ou est-ce que je cherche à les restaurer avec amour? Et je vous propose que, comme exercice final de ce parcours de Jacques, chacun d'entre nous puisse regarder certains secteurs. Et très honnêtement, je reconnais qu'il y a des secteurs où je ne me sens pas en danger. Je me dis non, ça va, ça joue. Et il y a quelques secteurs où je sais que je suis en danger, où c'est plus difficile pour moi, où l'analyse me pousse à me mettre devant Dieu et de lui dire « mais j'ai besoin que tu m'aides sur ce point-là ». Si nous faisons cela tous ensemble, nous allons progresser ensemble pour ressembler plus à Christ, pour que l'Église soit un meilleur reflet de Christ. Et je voudrais conclure en priant. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier parce qu'elle nous éclaire. Nous voulons te remercier parce qu'elle fortifie notre foi. Et nous voulons te prier pour que elle sonde encore nos cœurs. Elle montre là où nous avons des progrès à faire pour te ressembler. Ouvre nos cœurs. Aide-nous à accepter que nous ne sommes pas parfaits, mais que nous sommes en chemin. Aide-nous à comprendre que tu veux nous aider, que tu veux nous accompagner sur ce chemin de la sanctification, que tu veux rendre nos foi vivantes, brûlantes pour toi, que tu veux nous façonner. Nous t'en prions, aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous à aimer nos frères et sœurs. Aide-nous à pardonner, aide-nous à demander pardon, aide-nous à prier sans cesse, dans la joie, dans les peines, aide-nous à faire confiance à nos anciens, aide-nous à nous anciens à enseigner d'une manière juste et que nos vies aussi correspondent à nos enseignements. Aide notre Église à grandir et à répandre le message de l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen.